Bonsoir Gaspard Koenig.
Bonsoir.
Nous allons parler d'Aqua, qui est finalement une suite, sans être une suite évidemment, de votre travail, de votre réflexion sur les éléments aux éditions de l'Observatoire. Peut-on considérer encore que l'eau est toujours un bien commun ?
Alors d'abord, l'eau est officiellement le patrimoine commun de la nation depuis une loi de 1992. Toujours un peu bizarre cette notion de bien commun parce que l'eau est gratuite en fait. On paye pas l'eau, on paye les tuyaux, on paye les pompes, on paye l'assainissement, on paye le traitement de l'eau. Mais l'eau elle-même est une matière qui est complètement gratuite parce qu'elle est supposée justement être bien commun. Et donc du coup, on n'a pas vraiment appris ou on a désappris en tout cas à prendre soin. Et c'est ça qui est quand même un peu le moteur de cette série sur les éléments, c'est de réaliser à quel point moi-même, à titre personnel, j'en suis totalement déconnecté. Avant de faire ces recherches, je marchais sur un trottoir sur le sol d'un chemin sans m'interroger sur ce qu'il y avait sous mes pieds. Donc il y a, comme on le sait, un humus qui recèle la plus grande biomasse du monde. Hein. C'est là que la vie se fait, c'est vraiment dans le sol. Plus de vie dans le sol qu'au-dessus du sol. Et pareil pour l'eau, on appuie sur le robinet, l'eau coule et... voilà, c'est bien commun ou pas, on sait pas trop d'où ça vient, c'est de toute façon pas très cher, et donc on s'interroge pas sur sa provenance, sur on a perdu un peu sa mythologie aussi, ça a laissé légende, et donc c'est un peu pour les remettre en avant, et puis aussi pour, dans un contexte de changement climatique où les ressources en eau vont manquer en France, ça c'est une certitude, que j'ai écrit ce livre.
Et vous l'avez traité d'une façon presque feuilletoniste, j'ai envie de dire, d'un point de vue littéraire. C'est-à-dire que ce livre pourrait presque être des séquences. Et en cela, vous vous rapprochez d'une écriture d'un autre siècle, celle de Zola, de Balzac. Il y a quelque chose dans votre façon de raconter qui est celle d'une fresque de personnages avec des points de vue différents, des postures différentes et une écriture assez nerveuse, parfois agressive, parfois bouleversante, mais finalement très humaine.
Oui, et effectivement très 19e, ça complètement. Mais je pense que on a beaucoup essayé d'innover sur la forme du roman. Et ça fait plaisir à l'auteur, en fait, qui fait des choses très intelligentes, très sophistiquées. Mais qu'en fait, la technique de la narration, elle est à peu près inchangée depuis Aristophane. Il faut des héros auxquels on s'attache, des problèmes, et puis des tensions et une résolution. Et c'est comme ça qu'on entraîne le lecteur. Et moi, mon objectif, c'est que le lecteur ait envie de tourner les pages. Et je vois très bien pour moi-même, il y a des livres que je trouve très beaux, très bien écrits, très intéressants. Mais si je le reposais, que je continuais pas à le lire, rien ne me manquerait. Et il y en a d'autres, peut-être parfois un peu moins réussis, mais quand je me réveille la nuit, j'ai envie de les reprendre et j'ai envie de finir le chapitre pour savoir ce qui se passe. Et c'est vraiment très important pour moi de garder ce moteur. Et ce moteur, il a été très très bien construit justement par les romanciers du 19e, qui savent comment nous faire avancer dans le livre. Il y a la terre de... J'ai lu, après avoir écrit ce livre, la terre de Zola. Donc je suis en train de lire les Rougon-Macquart que j'ai lu un peu dans le désordre et pas en entier. Donc là, je le fais de manière un peu plus structurée. Et La Terre de Zola, qui est d'ailleurs pas un de ses livres les plus connus, c'est juste la vie d'un petit village de la Beauce pendant 500 pages, où globalement, tout est horrible. Les petits-fils violent leur grand-mère, les sœurs assassinent leurs frères, tout le monde s'entrevole l'argent, les parents laissent leurs enfants crever de faim sur le trottoir. C'est vraiment atroce, atroce. C'est atroce, c'est hyper cru, hyper graphique, c'est très étonnant pour le 19e. Et d'ailleurs, ça a fait scandale, évidemment, à l'époque. Et bon, et en fait, sur ce fond-là, Zola, il fait quand même tourner les pages. C'est-à-dire qu'on a envie de savoir ce qui se passe, on avance avec lui. Et à partir du moment où il y a ce moteur-là, derrière, on peut mettre tout ce qu'on veut. Et toute sa, justement, sa documentation, par exemple, s'agissant de l'eau, les histoires de com-com, les histoires d'aquifères, faire traverser des questions sociales, parfois un peu techniques ou un peu complexes, à travers des personnages qui donnent envie de savoir la suite. Voilà, c'est ça le but du jeu, c'est ce que faisait magnifiquement Zola, où effectivement, d'ailleurs, chaque chapitre est construit comme une espèce de scène avec ces éléments dramatiques qui assez autonomes en fait par rapport au reste du livre. Et puis effectivement, il y a le côté série, puisque là je reprends pendant à quoi des personnages secondaires du Mus, en imaginant que l'histoire se passe en fait en parallèle du Mus, avec parfois des scènes du Mus qu'on retrouve, alors pour les Happy Few, qu'on retrouve dans à quoi en voyant l'envers en fait du miroir. Et puis ça sera pareil pour le prochain, qui sera autour de l'air. Voilà, mais on finira avec le feu, mais ça, je sais pas encore par où ça va brûler.
Et comment vous avez, d'un point de vue littéraire, travaillé? Est-ce que ça a été l'eau, ce personnage principal en premier que vous avez travaillé, ou cette panoplie de personnages autour de ce sujet?
Voilà, en fait, c'est d'abord l'eau. Et pour écrire mes livres, je fais plusieurs mois d'enquête journalistique, en fait, où je vais sur le terrain, j'interroge des gens, des hydrologues, des préfets. J'ai été suivre un maire rural dans son quotidien pendant une semaine. J'ai été voir des sources, j'ai été voir des usines de traitement d'eau, beaucoup en Normandie, puisque le livre se passe là, dans l'Orne, sur une terre granitique, donc une terre qui ne retient pas l'eau, où il y a très peu de nappes, et donc est en fait à risque de sécheresse, même s'il continue à pleuvoir beaucoup l'hiver. Et puis j'ai lu, voilà, donc c'est l'eau. Et puis à partir de ça, viennent les personnages, en fait, qui vont incarner chacun une manière de voir le sujet. Et j'attends que ce travail de documentation, quelque part, soit complet pour vraiment mettre en forme l'intrigue, pour être sûr que rien ne manque, en fait. Mmh. Et après, les personnages commencent à prendre vie. Mais je procède un peu... Alors, chaque écrivain a sa méthode, et d'autres partent des personnages. Mais moi, je suis un peu comme un réalisateur. Je conçois mes scènes vraiment chapitre par chapitre, ex ante, quoi, de manière... très 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 exhaustive, et ensuite l'écriture se fait alors avec quand même une certaine liberté et des petits méandres de temps en temps, mais en suivant le plan globalement, parce que surtout sur des romans complexes avec beaucoup de personnages et beaucoup d'histoires, si on commence à se laisser entraîner, après il faut tout réécrire derrière, et c'est finalement beaucoup plus astreignant. Donc voilà comment je procède. De manière très artisanale, hein. C'est vraiment pas des grandes bouffées d'inspiration. Je suis désolé de décevoir la salle, mais c'est 6 heures par jour déconnecté, et mot par mot. Et on change un adverbe et on se dit, ah bah oui, mais du coup, là j'ai une répétition, et donc il faut que je bascule une phrase. Et voilà, c'est du tricotage vraiment comme un ébéniste qui prend des années pour construire un meuble.
Vous vous rendez compte que là vous allez briser le fantasme de nombreux lecteurs. Oui.
Je pense que tous les écrivains disent à peu près la même chose sur ce sujet.
En quoi, pour vous, vraiment, l'eau est un élan narratif?
Alors, ce qui est fascinant dans l'eau, c'est d'abord bon, son aspect totalement... enfin, la profondeur qu'elle touche en nous, parce qu'on est évidemment fait d'eau, on est sorti de l'eau. L'eau, c'est le lien qu'on a les uns avec les autres, puisque les hydrologues disent, pour s'amuser, quand les hydrologues s'amusent, que... on boit l'eau qui était dans le verre de Jules César, parce que une goutte d'eau contient tellement de molécules H2O que statistiquement il y en a forcément une qui se retrouve dans notre verre maintenant. Mais ce qui veut dire que on n'arrête pas de s'échanger en fait entre nous ce liquide qui lui-même est stable. Hein. Il y a toujours autant de molécules d'eau d'H2O sur la planète Terre, je vous rassure. Donc, et puis quand on lit Bachelard par exemple, il nous explique que l'eau est pureté. L'eau est pureté, l'eau définit la pureté, de sorte que quand on parle aujourd'hui d'un caractère pur ou d'une ligne architecturale pure, en fait, on parle de l'eau, parce que ce concept-là, on l'a par l'eau. Pourquoi? Parce que l'eau, c'est chimiquement le solvant universel, c'est ce qui nettoie tout. Vous laissez quelque chose dehors pendant 1000 ans et parfaitement nettoyé après, parce qu'il aura été raviné et érodé par la pluie qui brise tout, par l'eau qui brise tout, qui semble si douce, et qui en fait casse absolument tout, y compris les roches les plus solides. C'est pour ça que le massif armoricain, c'était l'Himalaya il y a quelques centaines de millions d'années. Maintenant, c'est plus grand chose, parce que l'eau l'a totalement cassé, beaucoup mieux que toute la dynamite ou même les bombes nucléaires du monde. Donc c'est assez incroyable, quoi, comme élément qui paraît si doux et si fluide, et qui est en fait si dur, si fort. C'est pour ça d'ailleurs que les premières pages s'ouvrent sur une description de l'eau comme une balle, pour montrer qu'on n'est pas dans une espèce de fantasme un peu type pub pour shampoing, quoi, ou une vaillinée qui est...
Non, on n'est pas là.
Voilà, on n'est pas là du tout. Non, on est sur un élément quand même plus agressif presque.
Oui, oui.
Et puis aussi vital et qui, quand il vient à manquer, remet tout en cause. Parce qu'aujourd'hui, on a nos micros, notre ChatGPT, on est bien, on n'y pense plus. Si demain, une ville tombe à sec, une grande ville, qu'est-ce qui se passe ? C'est pas du tout une fiction, puisque au Cap, en 2018, ils sont passés à quelques semaines de la rupture d'approvisionnement en eau potable, et ils avaient mis en place un grand compteur géant où on avait le nombre de jours jusqu'à la rupture d'eau, pour inciter les gens à économiser l'eau. À Téhéran, le président iranien, alors avant cette horrible répression, avait expliqué que s'il ne pleuvait pas, il faudrait, dans quelques mois, il faudrait évacuer Téhéran. Mais ça veut dire quoi ? Évacuer une ville de 10 millions d'habitants. C'est-à-dire qu'en fait, tout d'un coup, toute la modernité hyper sophistiquée qu'on a construite et qui fait qu'on est complètement détaché des éléments de notre milieu, s'effondre complètement. Parce que l'eau, c'est ce qu'il y a de plus vital. 3 jours sans eau, on meurt. C'est 3 minutes sans air, 3 jours sans eau, 30 jours sans manger. Et donc là, c'est la fuite vers la source. Ça paraît bizarre. Enfin, je veux dire, on ne sait même plus qu'il y a des sources à notre époque. Tout ça, on se dit, tout ça est réglé quelque part. L'État doit avoir mis les tuyaux qu'il faut. Ben non, en fait, ça reste une ressource locale. Et en France, en 2022, pendant la grande sécheresse, dans le bocage normand, donc où je suis, à l'ouest, c'est-à-dire sur le granit, il y a plusieurs villes qui sont passées à quelques jours de la rupture d'eau. Angers, où j'étais hier, est passé très proche aussi. Et donc, c'est des choses qui vont se produire. Ça, c'est certain, puisque le GIEC, et notamment la déclinaison régionale du GIEC, le GIEC normand, dans ce cas précis, anticipe des sécheresses pluriannuelles, c'est-à-dire 2022 x 3. Et donc, c'est pas de la science-fiction, c'est pas quelque chose qui va arriver dans 50 ans, si... Non, c'est quelque chose qui va arriver bientôt. D'ailleurs, l'État s'y prépare, les préfectures s'y préparent, l'État essaye de faire des plans eau. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est un... Et enfin, toujours pour continuer sur cette violence de l'eau, j'ai relu pour ce livre, enfin, j'ai été chercher les légendes normandes, les vieilles légendes du Moyen-Âge autour de l'eau. Et alors, bien sûr que l'eau, c'est un élément bénéfique. Les premières communautés humaines se sont assemblées autour de l'eau, évidemment, des points d'eau. C'est pour ça que c'est le premier sujet démocratique qui a été discuté. C'est aussi la question du livre, d'ailleurs. Est-ce que si l'eau redevient un sujet, est-ce qu'en fait, on va retrouver une forme de démocratie première ? Et c'est aussi l'eau qui prédit, c'est-à-dire qu'on va jeter un grain de blé, par exemple, dans la fontaine, on regarde s'il coule ou s'il coule pas, et ça vous donne une anticipation de la récolte. Mais c'est aussi l'eau maléfique, d'où sortent des tritons et des spectres qui viennent saisir les blanchisseuses ou les enfants près des rivières et les entraîner au fond de l'eau. Il y a aussi des légendes où l'être humain est tout d'un coup lesté d'une espèce de poids qui l'entraîne malgré lui vers le lac où il va couler. Et une époque en plus où, un, on ne savait pas nager, où deux, l'eau était souvent et pouvait être aussi contaminée, notamment s'il y a des cadavres, par exemple, d'animaux qui y gisent, et où on ne pouvait pas boire n'importe quelle eau, notamment parce que les microbiotes étaient adaptés à l'eau locale, et donc quand on buvait l'eau du village d'à côté, on pouvait tomber malade parce qu'on n'avait pas les mêmes bactéries en fait pour se défendre. Voilà, donc il y a quelque chose d'inquiétant dans cet univers de l'eau, quelque chose qui a trait au pur et à l'impur. C'est aussi un des thèmes du livre avec une personnage qui est souillée quelque part, et puis tout ça sur fond très contemporain d'un problème qui va devenir le nôtre et qu'on ignore très largement aujourd'hui quand même.
Et vos personnages, finalement assez symboliquement, font écho à toutes ces questions que vous venez d'évoquer. Sur les légendes, il y a Léa, une forme de sorcière, enfin, qui pourrait être une sorcière dans un autre temps et qui évoque ces légendes. Il y a les personnages ruraux qui sont vraiment presque voués à la terre, comme si c'était leur dieu. Je vous vois tiquer.
Oui, un petit peu, parce que juste sur les personnages ruraux, j'essaye de mettre en scène un village contemporain. Donc il y a effectivement quelques agriculteurs qui sont voués à leur terre, mais d'abord, dans les agriculteurs, il y a quand même des genres assez différents.
Absolument.
Il y a d'un côté le conventionnel qui, en fait, a drainé ses terres et puis pompe l'eau de la rivière et puis voilà, veut rien entendre, et puis met d'ailleurs des produits qui causent des nitrates. Il y a effectivement des agriculteurs plus... attachés au sol.
Ouais.
Mais il y a aussi et surtout toutes sortes de personnages qui n'ont justement rien à voir avec la Terre, parce que dans un village contemporain aujourd'hui à la campagne, en fait, la plupart des gens sont tout aussi déconnectés de leur environnement que les urbains, voire même plus. Et on n'est plus justement dans le village de la Beauce de Zola, où il y a quand même une homogénéité culturelle, où on croit le même Dieu, où bon, on a quand même globalement les mêmes revenus ou les mêmes richesses, même si on se bat beaucoup, où on vient des mêmes familles aussi. Un village contemporain, il y a des gens qui viennent de pays étrangers, des ingénieurs et des ouvriers, des notables, des néo-ruraux, des retraités, des familles. Enfin, c'est très, très, très disparate. Et du coup, c'est très hétérogène. Et très souvent, c'est pas que les gens se disputent, c'est que les gens, tout simplement, ne se connaissent pas. C'est même frappant de voir dans des villages de 400 habitants qu'on peut ne pas connaître le prénom de son voisin exactement comme dans un immeuble en ville. Et c'est un peu la question du livre, c'est est-ce que à partir de ça, de cette réalité que je décris de manière assez cynique et crue, hein, comme Zola en son temps pour d'autres raisons, sans du tout épargner mes personnages, en les faisant descendre peut-être dans le pire de la nature humaine. Et d'ailleurs, j'ai eu un très bon entraînement pour trouver le pire de la nature humaine, c'était d'assister à une permanence de mairie. Qui est un peu l'équivalent du confessionnal aujourd'hui, où les gens révèlent leurs vices et leurs égoïsmes sans aucun filtre et sans aucune pudeur, et ne s'empêchent absolument pas de dénoncer leurs voisins, d'expliquer qu'il faut abattre le chêne bicentenaire parce que quand même les glands... Mais ça, c'est un truc que j'ai vécu, que j'ai vu, hein, parce que les glands...
Cette scène, elle est vraiment... Pardon, je vous coupe, mais cette scène, elle est stupéfiante et hilarante à la fois.
Et elle est totalement réaliste.
Oh, c'est flippant.
Il faut abattre le chêne, mais ce qu'il a obtenu, d'ailleurs, dans la vraie vie. Abattre le chêne bicentenaire qui est sur le trottoir parce que les glands tombent sur le gazon, bien tondu, bien sûr, et que donc, ça fait sale. Donc c'est ça une permanence de mairie. Et donc ma personnage un peu bobo, néo-rural et tout ça,
sociologue. Celle qui n'ait pas de carillon de l'église le matin aussi, c'est
ça, c'est hyper classique.
Ça c'est vrai.
Hyper classique. Il y a plein de procès là-dessus sur les carillons de l'église, les chants de coq. Ça abonde. C'est la néo-rurale. Enfin là pour le coup c'est l'architecte d'Argentan qui a sa résidence secondaire là-bas et qui a envie de dormir le dimanche matin parce que si elle est à la campagne c'est pour se reposer. Pour le calme, alors que les gens qui vraiment à la campagne savent qu'il n'y a rien de moins calme qu'une campagne ou qu'un village. C'est toujours quelque chose qui se passe en vérité. Et donc bon, après avoir bien descendu dans la noirceur de l'âme humaine, je prends mes personnages, je les touille, et je me dis à partir de ça, à partir vraiment du réel, dans ce qu'il a de moins idéaliste, est-ce que je peux faire de ces gens? Enfin, est-ce que je peux en faire émerger un bien commun, justement? Et comment? Parce que si on parle des communs, du partage, de la ressource comme bien commun, etc., bon, si on écrit un essai, c'est facile. On dit oui, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut s'assembler, il faut... Bon, d'accord. Mais dans la vraie vie, comment ça se passe? Comment réagissent les gens? Et là, à partir du moment où je suis descendu assez comme ça, profondément dans les personnages, ensuite, je les laisse un peu faire. Je les connais bien maintenant. Donc je les mets ensuite ensemble et je regarde ce qui se passe et comment ils interagissent les uns avec les autres. Et je les connais assez bien maintenant, je pense, pour bien anticiper leurs réactions. Et après, là, pour le coup, vers la fin, je laisse faire. Et je vois jusqu'où mène le livre. Si cette espèce d'expérimentation grandeur nature, une crise hydrique, provoque le meilleur ou le pire. Parce que dans l'eau, il y a la guerre de l'eau, il n'y a plus d'eau, effectivement. Mais il y a aussi la paix de l'eau. L'eau, c'est aussi l'élément à partir duquel historiquement sont nés les communs, cette manière de s'organiser démocratiquement, de se partager les ressources pour éviter que quiconque ne la surexploite. Donc les deux options sont possibles et c'est ça que le romancier s'amuse à expérimenter.
Et d'ailleurs, vous mettez une fontaine comme un lieu de référence finalement, comme un lieu de partage, d'écoute, un lieu de confessionnal, vous l'avez dit. Dans votre livre, il y a cette idée de la place avec la fontaine au centre de cette place qui compte et qui a une sorte de rôle. Mais quand même, quand on lit votre livre, vous l'avez dit, c'est une écriture assez cynique. Est-ce que vous êtes déprimé après avoir écrit ça?
On va pas révéler la fin, mais pour ceux qui ont lu Humus, c'est une fin moins déprimante qu'Humus, donc je progresse quand même de livre en livre. Et au contraire, je pense que c'est un livre. Enfin, c'est à vous de me le dire, mais je pense qu'il est drôle aussi par son cynisme.
Je suis d'accord. Il est vraiment très très drôle, mais comme vous le dites, vous n'épargnez personne.
J'épargne personne, y compris moi-même d'ailleurs, puisqu'à un moment donné, il y a un Gaspard qui se promène dans le livre un peu comme Hitchcock dans ses films.
Absolument.
Qui s'en prend aussi
une petite au passage,
une volée, et comme ça, je me dis tout le monde est sur le même plan, et si je suis assez légitime pour critiquer les autres, si je m'applique le même traitement. Mais du coup, je me suis beaucoup amusé en l'écrivant. Beaucoup amusé.
Oui, ça m'étonne pas.
Surtout Martin, au début, Jobard, qui est l'énarque, pour aller vite, et qui dit « Ah, mais j'ai la solution, il y a le sage, le sdage, le sradet, avec ça, tout le monde va être heureux. » Donc lui, il veut raccorder les tuyaux à d'autres communes pour mutualiser la ressource. Il n'a pas tort, hein, d'ailleurs, il n'a pas tort. Mais ça, les autres, eux, ils restent attachés à une forme de symbolisme, d'utiliser sa source. Bon. Et personne n'a complètement tort ni raison, hein, c'est pas binaire. Mais, et donc Martin, évidemment, j'en fais vraiment le prototype de l'énarque. Je pense que je connais bien cette espèce-là. Et donc, il est gentil. Hein. C'est un social-démocrate. Il milite à la Fondation Jean Jaurès. Il fait des rapports sur les inégalités. Il veut bien faire. Il a le sens de l'État, comme on dit, de l'intérêt général et tout ça. Mais profondément, il pense qu'on ne peut pas faire confiance aux gens. Et que justement, s'il y a des énarques, c'est bien pour résoudre les problèmes que les gens laissés à eux-mêmes seraient totalement incapables de gérer. Parce que les petits maires qui mettent un peu de chlore dans la bonbonne et de sable pour filtrer l'eau, c'est n'importe quoi. Et heureusement que maintenant, on a des techniques un peu plus sophistiquées pour gérer les choses. Parce que le monde est complexe et donc vous n'y comprenez plus rien. Et donc, heureusement, nous sommes là. Et donc, Martin, mais H, je me levais le matin en me disant « qu'est-ce que je vais lui faire aujourd'hui ?» Et je me suis bien marré au début. Alors après, le personnage se complexifie et voilà. Mais donc, non, d'abord, c'est drôle. Et enfin, pour moi aussi, j'espère pour le lecteur, mais pour moi,
je confirme, il est drôle. Voilà, mais malgré tout, quand même, vous nous présentez une société qui n'est pas rendue, hein, qui n'a pas le sens du collectif non plus. Bah, finalement,
c'est le moins qu'on puisse dire aujourd'hui, quand même.
Ah, c'est le moins qu'on puisse dire.
Et justement, ce livre essaye de se demander pourquoi, parce qu'il décrit toute la chaîne politico-administrative, et je pense que c'est aussi parce qu'on est. On est constamment habitué à avoir quelqu'un qui intervient quelque part, qu'on n'a plus besoin de se parler les uns les autres. Et puis, si on a un problème, on va voir, on appelle directement la police, on va même plus parler à son voisin. Donc, mais c'est aussi un livre qui se demande à quelles conditions est-ce qu'on peut renouer le dialogue. Et justement, c'est pas, c'est tout sauf une espèce de village d'idéalistes qui se rassemblent pour vivre mieux. Mais c'est confrontés à la crise existentielle, qui sont obligés de se parler, parce que c'est dans leur intérêt aussi, et obligés, de les yeux dans les yeux, de commencer à trouver des compromis, puis après à se dire que finalement c'est assez sympathique, parce qu'on en fait ressortir une forme de chaleur humaine, partagée. Le deuxième point aussi sur mon état d'esprit, c'est que mes livres quand même traitent de la crise écologique, parce que de quoi parler d'autre aujourd'hui, franchement, quand on est romancier, parce que enfin, je veux dire, les faits sont tellement graves que je vois pas comment on peut y échapper. Et c'est vrai que comme je passe mon temps maintenant à parler avec des scientifiques, des agronomes ou des géodrilologues spécialisés vers de terre pour humus, des hydrologues pour aqua, maintenant je fréquente des botanistes, des mycologues et autres. C'est pas que le problème écologique est quelque chose qu'on lit une fois de temps en temps parce qu'on écoute dans les médias. C'est quelque chose qui vous habite toute la journée parce qu'on toute la journée, on voit le désastre. Enfin, on voit les chiffres, on entend les gens, on entend les scientifiques et ça peut finir par être assez lourd. Et ça l'est parfois. Mais quand on écrit, on est un peu comme le photographe de guerre. Les photographes de guerre, on dit souvent qu'ils n'ont pas peur sur le terrain parce qu'ils ont leur appareil photo qui les met à distance du réel. Et là, c'est un peu pareil. Vous voyez, quand je vois qu'il y a un rapport de l'ONU qui sort sur la faillite hydrique, je me dis, génial, je vais pouvoir le mettre dans le chapitre 12. Et donc, en fait, ça me permet d'agir quelque part et par rapport à ces nouvelles très angoissantes, d'en faire quelque chose, de les travailler, d'être dans une forme d'action, même si ça, c'est de l'écriture. Et donc, ça me permet de passer quand même des nuits calmes.
Et votre livre, en cela, a quelque chose effectivement de très percutant, à la fois dans l'écriture, je le disais tout à l'heure, mais aussi dans cette façon que vous avez de manipuler un peu vos personnages, puisque finalement, quand on ferme le livre, vous nous renvoyez un petit peu, justement, à la place qu'on pourrait occuper, parce que tous vos personnages sont très attachants. Ils sont attachants parce qu'ils sont finalement assez sincères avec leur façon de procéder, avec leurs croyances. Donc, fatalement, à un moment donné ou à un autre, on se retrouve dans un de vos personnages. Et là où c'est saisissant, c'est que ce texte qui est à la fois drôle et en même temps indispensable, nous renvoie, comme vous le dites très très bien, à quelque chose qu'on ne regarde pas et qui est quand même sous nos yeux de façon criante.
Oui, alors je sais pas comment ça se fait parce que je sais pas conscient de ma part, mais on me dit souvent et on m'a dit sur Humus aussi que même si il y a ce cynisme un peu Welbeckien, contrairement à Welbeck qui n'aime pas ses personnages, ça se voit et qui les fait souffrir jusqu'à la fin. Et moi, on sent que je m'y attache, et donc ça se répercute aussi sur le lecteur. Et c'est vrai, c'est comme ça. Et donc ça se voit, mais sans technique particulière. Et effectivement, j'essaye de mettre en place différentes figures et différents paysages mentaux aussi, par rapport notamment à la représentation de l'eau, pour que chacun puisse ensuite faire son chemin. Quoi. Le roman, c'est pas un essai, donc il donne pas une solution clé en main. Il dit pas lui est bon, lui est méchant. Lénard, finalement, malgré tout, son langage abscon, il avait aussi des bonnes raisons que les autres auraient peut-être dû écouter. Maria, l'idéaliste, elle finit quand elle voit que tout le monde la lâche parce que, une fois passé le jour de l'élection, les gens reviennent à leur quotidien. Elle devient quasiment dictatrice. Elle prend des arrêtés municipaux à tour de bras pour obliger ses concitoyens à être vertueux. Et donc, les personnages sont vraiment pas binaires. Même l'agriculteur conventionnel, un peu stéréotypé, jobard. Stéréotypé, mais qui existe dans la vie réelle, hein. Des générations à être maire du village, une grosse ferme en intensif avec une stabule où les vaches voient pas la lumière du jour, des maïs traités pour nourrir le bétail, enfin tout ça est très commun, hélas. Et puis le sentiment que le village lui appartient. Bah, même Jobard, il a ses faiblesses, il a ses failles, il y a des petits détails dans le texte qui montrent qu'il a aussi ses fragilités, et puis qu'il est aussi émouvant, parce que il a également ses problèmes, il vit tout seul, sa femme l'a quitté. Et il a probablement des sentiments qu'il ne révèle ou qu'il ne révélera jamais. Et puis il avait d'ailleurs un plan pour Martin, pour reprendre la ferme, mais des choses de... Et souvent, ces personnages, en fait, très proches du terrain, très concrets, très pragmatiques, des hommes de pouvoir aussi, ils ont des espèces de rêves qui sont complètement bizarres et complètement irréalistes. Et, mais c'est ces rêves-là qui les tiennent, en fait, et qui les font avancer. C'est très paradoxal. Voilà. Donc, en tout cas, chacun, normalement, peut trouver chaussure à son pied. Et surtout, à partir de ce livre, faire son propre chemin dans ces histoires et dans cet élément.
Mais alors, au fond, il faut quand même incroyablement aimer les êtres humains, même défaillants, pour écrire des livres comme celui-là, non?
Oui, je pense, dans certaines conditions. Voilà, je pense que j'écris une écologie à partir des humains. Et que ce qui m'intéresse, c'est les réactions des humains par rapport à ces problèmes-là. Parce que finalement, quand on dit qu'il faut sauver la planète... c'est un non-sens. La planète, dans 5 millions d'années, aura reconstitué sa biodiversité, même si on provoque la sixième extinction de masse. Bon, sur l'échelle des temps, des milliards d'années qui restent avant l'absorption par le Soleil devenu une énorme planète rouge, aura largement le temps de refaire son stock de vie. Marc-André Selosse, qui est un biologiste que je suis beaucoup et qui explique très bien les choses et dont je recommande vraiment la lecture de tous les livres, sort un petit essai chez Libelle la semaine prochaine sur pourquoi la biodiversité est un humanisme. Et il explique ça. Il explique que de toute façon, le vivant, lui, va s'en remettre à des échelles de temps qui ne sont pas les nôtres, mais qui, pour la planète, sont parfaitement communes. Donc, le problème, c'est vraiment nous. Et c'est notre avenir là-dedans. Le problème de la fonte des glaciers, c'est pas la fonte des glaciers, parce qu'il y aura de nouveau des périodes dans 15 000 ans, il y aura une nouvelle glaciation. Le problème, c'est nous, notre perception de ça, et l'environnement, le milieu qu'on s'est constitué avec ces éléments naturels. Et donc, c'est pour ça que ces livres sont à la fois naturalistes, hein, parce qu'ils sont imprégnés de paysages, et puis j'espère de descriptions un peu plus poétiques.
Qui donne envie d'aller en Normandie, ça c'est certain.
N'y allez pas trop, hein, laissez-nous tranquilles. parce que là c'est la Normandie, en plus c'est la Normandie rude, hein. C'est pas la Normandie du Pays d'Auge avec des petits colombages et des Porsches garés devant. Là c'est vraiment la Normandie de l'Orne, post-industrielle, granitique. Hein, donc c'est très important que ce soit granitique parce que non seulement la roche est dure, donc il n'y a pas de nappe, donc c'est vrai que les risques de sécheresse est beaucoup plus important comme en Bretagne, c'est le massif armoricain géologiquement, mais c'est aussi des maisons noires, des maisons sombres, parce que justement elles sont construites avec le schiste et le granit. Donc
c'est à la fois cet environnement-là.
Voilà, et puis un naturalisme parce que justement, il s'intéresse à finalement quand même aux seuls êtres qui constituent notre existence, qui sont les autres êtres humains. On peut pas on peut pas devenir totalement érémitique, quoi.
Et qui bataille, hein. En fait, dans ce livre, ça bataille quand même sévèrement, hein. Tout le monde essaye d'avancer quelque chose. Tout le monde essaye de s'en sortir. Et ça donne lieu à des scènes très fortes. Des scènes aussi qui sont physiquement très fortes, très violentes, vous l'avez dit tout à l'heure. Parce que bien sûr, ça génère des conséquences et des conséquences. Il faut bien faire des choix et avancer. Mais c'est aussi un livre sur le pouvoir. Vous l'avez dit tout à l'heure, parce que dès le départ, il s'agit de choisir un maire. Donc c'est, et on voit bien, ce n'est pas seulement un livre sur l'eau, la transition écologique. C'est aussi un livre qui fait écho au pouvoir.
Complètement. En fait, on pourrait même penser que dans ce microcosme qu'est le village de Saint-Firmin, qui est un village imaginaire, mais bon, très réaliste, du bocage normand, c'est vraiment une miniature qui permet d'universaliser le problème de la gouvernance et de la démocratie. Au début, en fait, on a une approche très directive, technocratique de la démocratie, où bon, on a élu des représentants, puis après, on prend les règlements en pleine poire, et puis il faut globalement appliquer. Ensuite, quand Maria prend le pouvoir, il y a une espèce d'émotion collective, une espèce de sentiment, tout d'un coup, on se réapproprie quelque chose, et puis on est content, il y a un enthousiasme très sympathique, comme quand on va faire un pique-nique du village, quoi, la fête du village une fois par an. Mais seulement le lendemain, tout le monde repart dans sa cahute, reprend ses occupations, et Maria se retrouve complètement toute seule. Et donc Maria dérive, elle, vers une forme d'autoritarisme, peut-être le troisième mode. Et puis le quatrième mode qui apparaît à la fin, c'est justement la question des communs. Cette histoire-là, que comment les pendant très longtemps, et puis encore aujourd'hui dans plein de parties du monde, et même aujourd'hui en France, les pâturages, les étangs, les bois étaient organisés en commun. C'est-à-dire que les gens discutaient de la manière dont on allait couper le bois ou pêcher les poissons, de manière à ce qu'il en reste pour tout le monde et pour les autres, donc, et pour les futures générations. Et c'était pas par vertu, c'était pour assurer aussi la pérennité de ses propres intérêts. Et donc c'est intéressant, et beaucoup à partir de la question de l'eau et de la gestion des sources. Ça existe encore, il y a encore des sections, 30 000 sections de communes en France qui fonctionnent selon ce principe-là, auquel l'État, évidemment, cherche à mettre fin. Moi, j'ai été voir des choses qui fonctionnent encore comme ça en Corse. À Valence, Espagne, il y a toujours un tribunal de l'eau où toutes les semaines, les gens peuvent aller poser leurs réclamations et régler leurs problèmes entre eux. Donc on voit bien que l'eau est le premier terrain de la démocratie. Comme je disais, les gens s'installent vers l'eau, c'est ce que je retrace dans la légende de Saint-Firmin, vont là où il y a la source, et ensuite commencent à discuter de qui a droit à l'eau, et comment, et combien de temps, et c'est là que la démocratie naît, en fait. Donc je pense que c'est un élément hyper politique, et autant Humus, disons, discutait de la question du capitalisme versus la radicalité politique, là, c'est vraiment la question de la centralisation du pouvoir versus une forme d'autogestion, pas si irréaliste peut-être, en tout cas, et y compris dans une société moderne qui croit en être très éloignée.
Parce que là, en fait, on observe avec vous, on rentre un peu dans la mécanique de la haute administration.
Oui, aussi, oui.
Qui est vraiment une façon de gouverner en soi.
Oui, alors là, je me suis vraiment fait plaisir, encore une fois, en décrivant toute la chaîne un peu politico-administrative, du maire au ministre, en passant par le préfet, les agents de la préfecture, les agences, l'interco, voilà, j'en passe, c'est des meilleurs. Attendez, je vais me raccorder, je vais méandre un petit peu, mais...
On était sur la haute administration.
Voilà, la haute administration, je la connais tellement bien que j'ai plus rien à en dire, vous voyez,
On parlait du pouvoir, oui. Et je disais qu'avec vous, on rentre quand même un peu, on observe de plus près une mécanique bien huilée, et je disais que c'est un pouvoir en soi, finalement, un pouvoir dans le pouvoir, presque. Je ne vous ai pas aidé.
Bah oui, non, mais c'est quelque chose qui nous échappe un peu, en fait, et c'est d'ailleurs, il y a tout... Voilà, je rentre des choses presque un peu techniques, et on n'est pas obligé de s'y intéresser pour lire le livre, mais... la question des intercommunalités, par exemple, et pour moi, c'est criante parce qu'en fait, on a dépossédé les mairies de leur pouvoir pour des bonnes raisons de synergie, de déficience, etc. On n'a pas fait de manière maligne, mais néanmoins, le maire qui était le dernier échelon démocratique entre l'individu et le président de la République, celui sur lequel on sentait qu'on avait une forme de poids. Et maintenant dépossédé de ses pouvoirs, il ne peut répondre aux citoyens qui râlent que ah ben, on va voir ça avec l'interco parce que l'eau c'est plus ma compétence, par exemple. Et donc, moi, je pense que cette histoire d'Interco est vraiment un énorme drame démocratique. Même si ça procure des avantages en termes d'assainissement, de ramassage des ordures ou que sais-je, la démocratie, ça compte. Et le fait que les gens aient l'impression qu'ils ne décident plus eux-mêmes de leur propre destin est un immense problème. Même si on le règle pour eux et qu'on leur offre des choses confortables et que les poubelles arrivent à l'heure, c'est pas pour ça qu'il n'y a pas un autre besoin anthropologique très très fort qui n'est pas satisfait aujourd'hui et qui, je pense, explique beaucoup la frustration et les tensions qu'on voit dans le pays, parce que les gens se sentent... On voit bien ça dans les livres d'Anne Niva, d'ailleurs, qui s'installe vraiment dans des villes moyennes en France et qui reste avec les gens des mois pour comprendre leurs problèmes de l'intérieur sans leur poser des questions comme les sondeurs. Qui vraiment s'assoit à côté d'eux. Et sa conclusion, c'est ça. C'est au-delà de la question des injustices, des revenus et tout ça, il y a une forme de dépossession de soi, et on sent qu'on est géré par des algorithmes ou par des règlements qu'on ne comprend plus. Et en ce sens, d'ailleurs, un des personnages du livre, hormis l'eau, c'est le Code général des collectivités territoriales, qui apparaît à plusieurs reprises, y compris quand les deux maires font l'amour, d'ailleurs, je vous dis ça parce que quand même...
Vous êtes bien amusé.
C'est la première fois que le Code général des collectivités territoriales devient un sextoy, donc je lance ça comme ça au public. Mais et donc Maria, qui est nouvelle mère, qui veut faire des choses, bah, tout d'un coup, elle voit sur sa boîte mail des dizaines de circulaires qui lui arrivent quasiment quotidiennement, ce qui se passe en réalité dans les mairies. Et donc, elle essaye de feuilleter ces espèces de grimoires qu'elle trouve dans le placard pour s'en dépatouiller. Et avec beaucoup de difficultés. C'est pour ça que les maires, à un moment donné, abandonnent et disent « Bon, ben, on va laisser ça aux consultants, à l'Interco, à la boîte de conseil. » voilà. Et puis, alors, ce qui est assez amusant, donc j'ai un peu parlé aux gens pour préparer ce livre. J'ai rencontré presque, je dirais, mon personnage, puisque j'ai rencontré le chef du bureau haut du ministère de l'Environnement. Et donc, j'ai été au ministère de l'Environnement. Et je ne savais pas où était le ministère de l'Environnement. Vous savez où est le ministère de l'Environnement ?
Non, je ne sais pas.
Voilà. Il est à la Défense. Non, mais vraiment, il fallait vraiment y penser. C'est incroyable. C'est une tour. C'est la tour Séquoia qui est en face de la tour totale d'un côté et du périph de l'autre. Et vous allez là-dedans et vous savez, le nom des bureaux à l'entrée. Et donc, c'est des noms magnifiques. C'est le bureau de la biodiversité, le bureau donc des choses bien, des choses naturelles. Et tout ça dans un cadre dément où il y a une plante verte dans l'entrée et une espèce d'immense sculpture qui ressemble à un doigt d'honneur. Enfin, je suis désolé, je ne sais pas, qui fait 3 mètres de haut, qui est en face de la tour Séquoia. Ça, vraiment, c'est très fort, par exemple. Et en termes de pouvoir administratif, je trouve que ça en dit beaucoup plus. Et du coup, le romancier n'a plus qu'à s'asseoir, noter et retranscrire. C'est-à-dire, le travail a été fait déjà par le réel, en fait.
Oui, c'est ce que vous relatez à la fois, comme vous le disiez tout à l'heure, de façon très ludique et en même temps très cynique. Mais quand même, il y a aussi, sur cette question du pouvoir, ce que vous montrez bien dans votre livre, dans la narration, c'est une progression. C'est-à-dire que vos personnages, quand même, lentement mais sûrement, accompagnent votre tension narrative en pétant un plomb. C'est-à-dire que avoir du pouvoir rend dingue.
Oui, bah, y compris à petite échelle. Et c'est ça qui est important, c'est de montrer qu'en fait, c'est une mécanique qui fait que faut pas en vouloir aux hommes politiques. En fait, tout le monde, on est tous fait pareil, et tout le monde tomberait dans le piège. Et Maria, qui est pourtant si sympathique, si souriante, qui est vraiment donc qui s'installe comme épicière. Alors, au début, elle veut faire une coopérative bio, etc. Puis elle comprend que ce qui marche en fait, c'est de faire une vraie épicerie où on vend du papier toilette. Et donc, elle reconstitue un mini café quoi dans le village où les gens se retrouvent, se rendent service. Donc, c'est vraiment le personnage le plus plaisant qu'il soit au début, le plus doux aussi. Et elle devient mère, elle voit bien que les gens lui résistent ou ne s'intéressent pas à ce qu'elle fait. Et donc, elle est entraînée, je pense que je le montre de manière assez précise, quoi, étape par étape.
Ça, c'est sûr.
Jusqu'à une espèce d'imaginaire final où elle est quasiment Ceaușescuien, puisqu'elle est d'origine roumaine, où elle délire complètement comme Ceaușescu sur son palais, là, avant d'être huée par la foule. Cette scène incroyable de la révolution roumaine. Et donc elle-même est prise là-dedans. Et si elle est prise là-dedans, c'est vraiment que ça s'applique absolument universellement à tout le monde. C'est ça un peu le message. Et c'est bien pour ça que je sais plus c'était quoi Lord Acton, qui était un penseur anglais de la fin du 19e, qui disait qu'il y a une phrase qui est restée célèbre. Bon, c'est pas une phrase très sophistiquée. Il dit le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt de manière absolue. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut construire des contre-pouvoirs. C'est pas parce que C'est parce que de toute façon, les gens deviennent fous avec le pouvoir. Et donc, c'est un peu exemplifié par ce personnage et par les autres aussi, hein, parce que il y a le pouvoir qu'on exerce sur les autres, mais il y a aussi un pouvoir un peu plus vicieux. Par exemple, il y a un survivaliste dans le livre qui construit. Et j'ai lu pour les cas des manuels de survivalistes qui expliquent comment rester autonome en eau le jour du grand effondrement. Alors d'ailleurs, je lisais j'ai lu les bouquins survivalistes et effondristes pour me documenter sur le livre, mais à force de les lire, à la fin, je me disais qu'ils avaient finalement raison. Donc j'ai un peu dérivé moi-même. Je me suis installé ma propre citerne après avoir écrit ce livre. Donc vous voyez, on n'est pas sorti de l'auberge.
Mais non, mais en lisant, on prend un peu des notes sur ce que fait Saline.
Voilà, ouais, alors ça marche très bien.
Bonne idée. Demande,
et c'est low cost. Donc on peut faire ces espèces de grandes citernes. Il faut les envelopper de plein de rubans pour que ça soit noir et que le soleil n'y pénètre pas. Et puis après, il faut réutiliser l'eau en permanence. C'est ça vraiment le but du jeu, c'est qu'une fois qu'on l'a filtrée. Il faut alors, je me rappelle jamais l'ordre, donc il faudrait quand même que je me renseigne parce que l'eau de la vaisselle, l'eau de la douche, l'eau pour laver par terre, en fait, c'est la même eau qu'on va réutiliser petit à petit, et c'est ce que faisaient les anciens d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'il y a dans le livre un personnage qui est Pierrette, qui est l'ancienne, qui a 80 ans, qui a encore un chouïa d'accent normand, comme ça existe encore. Alors, ça disparaît, c'est vraiment les derniers aujourd'hui, la dernière génération qui a encore l'accent qui roule les airs. Et Pierrette, en fait, elle trouve que tout ce truc de se réapproprier l'eau, on pourrait se dire c'est l'ancienne, donc elle est pour les traditions et tout ça. Mais elle, c'est catastrophe. Elle est à fond pour les narques. C'est dit, c'est le progrès. C'est le progrès. Et elle, en fait, l'ancienne, c'est la génération des années 60-70. Elle a connu la ferme sans l'eau courante et elle veut absolument pas que ça recommence. Mais en même temps, quand il n'y a plus d'eau, elle applique exactement les mêmes techniques que Salim parce qu'elle sait faire, en fait. Elle est complètement habituée à vivre de manière très, très économe. Donc, en fait, ça ne la surprend pas. Alors, elle fait des. Pour la presse, elle dit oui, c'est affreux, c'est horrible. Mais en fait, elle, c'est une de celles qui s'en sort le mieux, finalement. Et donc, le survivaliste, c'est là où je voulais en venir. Quand il y a finalement une rupture d'eau, il est trop content. Parce que pour lui, c'est une manière. Alors, il n'exerce pas le pouvoir au sens où il ne contraint pas les gens, comme peut le faire un maire avec ses arrêtés. Mais il exerce une forme tout d'un coup, enfin, c'est lui qui a raison. Donc, il n'en peut plus de bonheur le jour où il n'y a plus d'eau dans le village. Là, il se dit, je vais enfin pouvoir actionner tous mes systèmes alors que les autres se douchent à la cristalline.
Oui, oui. Alors, ce personnage aussi, enfin, il est aussi dans un chapitre qui est, encore une fois, aussi inquiétant que très ludique, puisqu'il va faire venir dans ce village, en fait, deux Chinoises qui font du dark tourisme. Et donc, encore une fois, je ne sais pas comment prendre cette information qui m'effraie complètement, mais
exact.
Qui est vraiment, encore une fois, très réjouissante hein, dans votre livre. C'est-à-dire que, vraiment, vous avez complètement fait le tour de la totalité du sujet, de ce qui peut arriver, cette histoire de dark tourisme.
Oui, et c'est la grande mode. Il y a des agences de dark tourisme. Et le dark tourisme, c'est que plutôt que d'aller, comme tout le monde, en Thaïlande, prendre l'avion et polluer un peu pour passer quelques jours sur la plage, on va dans les endroits où se passent des drames. Donc, évidemment, l'épicentre du dark tourisme, c'était Tchernobyl. Super sympa, il y avait des tours opérateurs maintenant pour aller visiter Tchernobyl. Mais on va aussi faire du dark tourism dans des endroits où il y a eu des catastrophes plus récentes, des glissements de terrain, sympa, le glissement de terrain assez populaire aussi sur les sites de dark tourism, une éruption volcanique, et ça existe vraiment. Donc c'est des agences qui proposent ça. Et en l'occurrence, les deux Chinoises, dans le cadre de leur dark tourism, vont à Saint-Firmin qui a plus d'eau. Et ce que je voulais montrer, bon, c'est un passage aussi, c'est un moment assez dramatique dans le livre, assez tendu. Il y a une scène qui est particulièrement choquante, je pense. Et donc je voulais aussi un chapitre qui tout d'un coup fasse décompresser un petit peu le lecteur, qui produise presque un peu de burlesque. Les deux Chinoises arrivent et puis tout d'un coup, elles filment tout, elles se prennent en photo, elles font leur petit reportage pour les réseaux sociaux. Mais c'est aussi une forme de message géopolitique parce que, en fait, tout d'un coup, elles nous regardent, nous, comme nous, il y a 40 ans, regarder ce qu'on appelait le tiers-monde. Et donc, elles ont de la compassion pour nous parce que, franchement, les pauvres Français qui ont plus d'eau, quoi, c'est vraiment des barbares, quoi, c'est vraiment des nazes. Donc, elles essayent de donner un peu d'argent au village. Alors là, ça, c'est terrible parce qu'il y en a qui disent, mais oui, il faut prendre l'argent des Chinoises. Il y a d'autres qui disent, mais ça va pas, non, c'est trop humiliant. Et puis, je crois qu'elles font une cagnotte,
oui, elles font une cagnotte.
Chine, hein, pour lever de l'argent en disant, regardez, les Français, ils n'ont plus rien à boire, il faut les aider.
Saint-Firmin.
Donc, c'est une manière de nous montrer le regard de la puissance qui va être la puissance du monde de demain, j'imagine.
Oui.
Enfin, qu'il l'est déjà d'ailleurs, quand les États-Unis auront fini de s'autodétruire. Et de voir comment ils nous regardent. Et ils nous regardent effectivement comme un espace touristique et éventuellement un espace de dark touristique. Voilà.
Mais il y a quelque chose, je disais tout à l'heure, de très charnel hein, dans ce livre. Bon, c'est pas la première fois. En fait, voilà, dans votre écriture, les corps existent, sont très présents. Là, il y a comme une forme de violence. Hein.
Oui, alors parce que en fait, à chacun des quatre éléments va correspondre une forme de sexualité particulière. Et comme vous le savez, je me documente beaucoup pour écrire chacun de mes livres. Pour Humus, c'était la pansexualité. La pansexualité, c'est la bisexualité, mais sans même voir la différence. C'est-à-dire, on s'intéresse à l'individu indépendamment de son genre. Et c'était évidemment symbolisé par l'hermaphroditisme incroyable du ver de terre. Et une espèce de magma, de fusion des chairs, un peu originelle, comme ça, très, très jouissive. Bon. Et pour moi, l'eau est l'élément de l'asexualité, en un seul mot, c'est-à-dire du non-sexuel. D'ailleurs, les deux personnages un peu principaux, Martin et Léa à la fin, quand ils se retrouvent, avec leurs propres raisons, sont devenus asexuels, ont décidé de ne plus pratiquer de sexualité. C'est une tendance hein, aujourd'hui, très forte. Et ils se retrouvent comme un espèce de vieux couple, comme ça, où ils vont peut-être vivre, peut-être pas ensemble, enfin proches l'un de l'autre, mais de manière totalement. Comme les troubadours, quoi, en amour courtois. Et je pense que, justement, l'eau n'est pas un élément sensuel. Voilà. Encore une fois, on le représente comme ça, l'eau chaude, l'eau tahitienne. Je pense qu'au contraire, c'est un élément qui presque endort le corps. Et une expérience de ça que j'ai faite, d'ailleurs, c'est l'hypothermie. Quand vous vous baignez dans une eau très, très froide, au début, bon, évidemment, c'est compliqué de rentrer, etc. Et à la fin, en fait, ça devient un plaisir très angoissant et vous n'arrivez plus à sortir. Et ça, c'est le début de l'hypothermie. C'est le début de la mort, en fait. Et vous êtes tellement bien. Et là, vous êtes vraiment sans corps. Et c'est presque une forme de... Peut-être une manière physique d'atteindre une forme de méditation, comme la méditation quand on pense plus à rien, quand on est dans un flux. L'eau froide, je trouve, fait vraiment cet effet-là. Et à un moment donné, il y a un des personnages qui va se baigner comme ça dans un réservoir d'eau. Et là, vous allez me dire qu'encore une fois, j'hallucine, mais pas du tout, parce que j'ai vu sur le terrain, on m'a raconté des histoires de gens qui allaient par effraction dans les réservoirs d'eau la nuit, donc dans les châteaux d'eau, hein, et montent les petites échelles et qui se baignent là-dedans, dans une eau à la fois froide, totalement noire, et avec des échos complètement bizarres. Et voilà, et donc c'est vrai que les corps sont, dans ce livre-là, un peu malmenés, sont un peu dissous, quoi, finalement. Oui. Voilà, dissous. Et c'est lié à cet élément. Voilà.
Il y a vraiment dans votre livre des clins d'œil à des références politiques, géopolitiques, des références à des scientifiques qui travaillent sur l'eau. Il y a des références littéraires dans votre livre. On l'a vu, ne serait-ce que par cette histoire de feuilletoniste. Mais il y a aussi beaucoup de références à l'actualité, au brûlant du maintenant. Et donc, on imagine quand même en écriture une très grande géographie dans le temps, à la fois de terrain, dans l'espace. Enfin, on a quand même la sensation que pour nous rendre fluide votre histoire, au départ, il y a un sacré travail, j'allais dire, d'élagage, tellement il semble y avoir d'informations.
Oui, alors la question de la quantité d'informations est effectivement importante, puisqu'il ne faut pas trop en mettre non plus. Il faut que ça reste fluide, c'est le cas de le dire pour le lecteur.
Surtout en parlant de l'eau.
Bah voilà. Et cela dit, en lisant La Curée de Zola, qui retrace les grands travaux haussmanniens et les spéculations financières sur les grands travaux haussmanniens dans le Paris des années 70, je me suis aperçu qu'il y avait certains passages où Zola rentrait vraiment dans les détails des arnaques financières. Machin fait un prêt à machin qui conditionne le prêt. On comprend plus très bien. Et en fait, c'est pas grave. On sent que c'est documenté. Ça parle probablement à ceux qui, à l'époque, connaissaient ce genre de stratagème. Ça les dénonce, puisque Zola est aussi quelqu'un qui dénonce. Enfin, c'est lui qui a écrit J'accuse quand même. Et dans J'accuse, en fait, c'est pas du tout poétique. Hein, J'accuse, c'est vraiment, il regarde les faits. C'est un journaliste, Zola. C'est quasiment un journaliste d'investigation. Donc là, il montre les arnaques financières du Second Empire. Mais si on les comprend pas, c'est pas grave. Ça dure un paragraphe et ça donne une couleur, ça donne une atmosphère, ça donne un vocabulaire. Donc Moi, c'est un peu le truc sur les intercos, quoi. Il y a quelques cycles de temps en temps. Bon, si on s'intéresse au sujet, on comprend que c'est fiable. Si on s'intéresse pas, c'est pas grave du tout. Ça fait juste, ça donne un effet de réel. Et c'est pareil sur l'actualité. C'est important d'avoir des... Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je conçois le roman. On peut le faire tout à fait différemment, mais c'est vraiment l'implanter dans le monde tel qu'il est aujourd'hui. Mm-hmm. Notamment sur la manière dont on nomme les choses et les gens. Et donc, je les nomme avec leur vrai nom, notamment les entreprises. Et ça, c'est pas évident, parce que la plupart du temps, on a le droit en France de dire tout le mal qu'on veut de l'administration, qui est vraiment le bon samaritain de ce point de vue-là, qui tend la joue gauche. On a le droit de dire du mal qu'on veut des individus. C'est très très rare d'être condamné pour diffamation quand on est écrivain. Faut vraiment être Christine Angot pour y arriver. Normalement, il y a quand même le droit de la diffamation extrêmement libéral et on considère que c'est la liberté de la plume. Et voilà. Mais en revanche, les marques, tout d'un coup, on n'a plus le droit de les nommer. Et quand j'ai donc, il y a des références à pas excessives, mais enfin, il y a 2-3 pages où il y a des références à Cristaline dans le livre, qui est le premier produit de consommation des Français. Vous pourriez y revenir parce que vraiment, vous pourriez vous en passer, hein, vous gagneriez de l'argent. Et mon éditeur m'avait dit, bon, bah, Cristaline, évidemment, on va le renommer, on va mettre, je sais pas quoi, Aqualine. Et j'ai dit, mais pourquoi en fait les marques auraient ce privilège? Pourquoi je peux dire du mal du ministère de l'Environnement, du ministre machin et tout ça? Et pourquoi tout d'un coup les marques seraient protégées? Au nom de quoi elles n'apparaîtraient pas? Et puis ça fait bizarre dans un roman où tout est véridique d'avoir tout d'un coup quelque chose, un élément qui est complètement, qui est faussement fictif, parce qu'on voit bien à quoi ça fait référence. Enfin, c'est un peu artificiel. Et donc je rends hommage à mon éditeur pour avoir, pour mon éditrice, pour beaucoup de choses, pour me faire confiance, et aussi pour avoir accepté ce raisonnement et avoir laissé les vraies marques. On va bien voir si elles font des procès, d'ailleurs ce serait génial, ça ferait boosterait les ventes. Mais c'est pour ça d'ailleurs.
Non, parce que, alors effectivement, après avoir lu votre livre, on n'a plus du tout envie d'acheter une bouteille de Cristaline, hein, soyons clairs. Qui en prend quand même un petit peu pour son grade.
Dans la bouche d'un personnage.
Dans la bouche d'un personnage, bien sûr, bien sûr. Vous avez parlé de vocabulaire, et ça, c'est vraiment très important dans votre livre. Il y a plusieurs vocabulaires. C'est aussi une des raisons pour lesquelles les gens ne s'entendent pas,
absolument.
Purement et simplement.
Absolument. Alors, on parlait du pouvoir, mais il y a une scène terrible à la préfecture où l'élu local, enfin le maire, etc., sent bien qu'il a raison, parce qu'elle détient un savoir vernaculaire. Savoir qui vient empirique, qui vient de génération en génération, qu'on dit que bah là, si le terrain là est mouillé, c'est que la source est en bon état, et on sait pas trop pourquoi. Et ce savoir vernaculaire face au savoir technique analytique est complètement, en termes de langage, est complètement démoli. Il n'arrive pas à se présenter lui-même, à se formaliser. Et quand bien même il a une vraie valeur, y compris une valeur scientifique, qu'on redécouvre aujourd'hui, puisque aujourd'hui les hydrologues, justement, ils travaillent là-dessus. Pourquoi les gens, finalement, ils avaient raison de laisser méandrer les rivières, même s'ils ne savaient pas pourquoi. Ben maintenant, on sait pourquoi, on sait l'expliquer. Et face au langage technocratique, on ne sait plus parler. Dans La Terre de Zola, il y a exactement la même scène. Ça m'a vraiment frappé. J'ai trouvé ça incroyable. Il y a un candidat à la députation qui arrive, qui tient un discours aux paysans. Ils ne comprennent rien. Et puis il dit, d'ailleurs, je vais construire un canal et ça sera mieux pour l'eau. Et les autres disent, ah bon, oui, parce qu'ils n'osent pas parler. Ils ont pas bien. Et je fais relire, par exemple, mon livre par les gens qui parlent. Donc, par exemple, le langage du bocage des paysans. Et validé, si je puis dire, par un ami éleveur qui relit mes dialogues, parce que j'essaye vraiment d'être au plus près de la manière dont on parle, effectivement. Les narques, je crois que je vois bien, j'y arrive. Le bocage, j'ai besoin d'un peu d'aide. Les hydrologues, je commence à comprendre. Voilà. Donc, et pour que justement les dialogues soient à la fois réalistes, mais montrent aussi cet entrechoc de mots qui ne veulent pas dire la même chose. Et puis enfin, la dernière chose, c'est que ça, c'est encore... Dans ces conditions, on a des mots, mais parfois on n'a pas de mots. Et c'est là que c'est très angoissant. Et au début du livre, il y a la description de cette pluie bizarre, en fait, qui tombe sur le village, qui est une espèce de mousson, quelque chose qu'on n'a jamais vu. Et les habitants savent qu'il y a des dizaines de mots en normand, en patois, qui sont encore utilisés pour désigner la pluie, de la drache à la bernaudée. Et tout d'un coup, là, il n'y a plus de mots. Ils ne savent plus comment appeler cette pluie. Et c'est ça qui les angoisse, c'est que quand on ne sait plus nommer, c'est qu'on est dans une forme d'inconnu, de non familier, extrêmement angoissant, quoi, extrêmement infernal. Et pour l'écrivain aussi, c'est bizarre de ne pas pouvoir nommer la pluie. Et s'ils ne peuvent pas la nommer, c'est justement qu'elle n'a jamais eu lieu. Parce que les mots, on les trouve par incidence, en fait, parce que les choses existent. Et c'est donc qu'on entre dans un nouveau monde, dans quelque chose que les anciens n'ont pas connu, si on n'a pas de mots. Voilà.
Oui, il y a énormément de scènes dans votre livre où on voit bien que les gens ne peuvent pas s'entendre, je le disais à l'instant, mais aussi c'est compliqué de se comprendre quand on ne parle pas le même vocabulaire. Et ça rejoint aussi, alors ce sera ma dernière question, ça rejoint le fait que finalement vous créez des familles. Il y a des vraies familles, hein, comme celle de Martin, il a un oncle et ça compte beaucoup dans l'histoire. Mais vous créez des familles de gens, des familles qui arrivent à se retrouver. Et ces familles, elles bougent, elles changent. Mais vous créez des amitiés. Et là encore, on est vraiment dans cette culture, je trouve, feuilletoniste des auteurs du 19e. Vous créez des ponts entre les gens par moment et vous créez des univers. Et le vocabulaire en fait partie.
Ah mais c'est bien vu parce que dans mes quand je prépare le livre, donc j'ai mon plan qui est assez voilà, détaillé, mais j'ai aussi mes fiches personnages. Et effectivement, dans mes fiches personnages, il y a des un peu comme dans les policiers recherchent un coupable, là, il y a
un fichier, des traits
entre les différents. Ben, c'est un peu comme ça, c'est qu'ils évoluent. Je les fais évoluer dans mes fiches. Le machin, il va devenir plus comme ci, comme ça, mais donc il va plutôt parler à machin. Puis alors là, machin va arrêter de parler à machin parce que justement, il s'est passé ça. Et donc effectivement, ça n'arrête pas de bouger, tout à fait, jusqu'à la scène finale qu'on ne va pas évidemment révéler. Mais où justement, si la scène finale marche, si elle a un sens, c'est que toutes ces espèces d'évolutions qui s'accélèrent avec les problèmes hydriques pourraient finir par déboucher sur une forme quand même de bain commun.
Ça pourrait. Et on verra bien. Hein. Donc il faut le lire pour le voir. Mais pour terminer, voilà, je vais vous dire ce que votre livre m'a inspiré, c'est que finalement, ce mouvement dans lequel vous nous accompagnez... Pendant tout le livre, ce perpétuel mouvement est quand même incroyablement celui de l'eau, non?
Ça serait formidable si on arrive à ça. Mais c'est l'eau à l'état naturel, c'est-à-dire l'eau qui méandre. Parce que ce qu'on a fait à l'eau depuis deux siècles, c'est qu'on l'a orthogonalisée. On l'a mise dans des tuyaux et on l'a mise dans des couloirs. Et quand vous voyez une rivière qui va tout droit... c'est qu'elle a été, souvent on se promène, une rivière charmante, bucolique, mais si elle va tout droit, c'est qu'elle a été aménagée par l'homme. Et l'homme s'est dit, on va se faciliter la vie, on a fait des champs rectilignes, on a fait des maisons rectilignes, on a fait des gazons rectilignes, et ben on va faire de l'eau rectiligne. Mais en fait, avant le 19, l'imaginaire, la représentation qu'on a du cours d'eau comme quelque chose de tout droit, est totalement erronée. Avant le 19e siècle, les cours d'eau, aussi parce qu'ils étaient construits, comme Baptiste Morisot l'a très bien expliqué, par des castors, méandre. En fait, c'est pas un cours d'eau, c'est pas un truc qu'on voit aller d'un point A à un point B. C'est quelque chose qui circule. C'est une espèce de flaque en mouvement, avec plein de bois morts, avec plein d'êtres vivants, avec plein d'herbes. Donc c'est pas clair, en fait. C'est pas clair, mais ça a un sens. Ça a un sens, c'est que ces méandres retiennent l'eau. Et l'eau qui irait en deux heures de faire deux kilomètres sur un trajet rectiligne, elle va mettre 20 jours quand elle méandre. Et pendant ces 20 jours, elle fait quoi? Eh bien, elle entretient des écosystèmes. Et aujourd'hui, les ingénieurs ont tendance à considérer l'eau comme de l'énergie, c'est-à-dire un truc qu'on met dans les tuyaux qui va de A à B pour satisfaire les besoins humains, sans comprendre que son parcours a un sens. Il n'y a pas seulement un sens métaphorique ou poétique, il y a un sens biologique qui permet à la vie... d'être entretenu et donc à la biodiversité d'exister et aussi de régénérer les sols et de permettre in fine les cultures et de nous nourrir. Si mon roman méandre, c'est que ce méandre-là est vraiment le mouvement même de la vie sur Terre.
Et on s'en félicite et on sera content de vous recevoir pour le prochain épisode. Merci beaucoup à vous, Gaspard Canet.
Merci.